Les mémoires dans la peau. Une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Powels, maître de conférence en psychologie et psychopathologie rattachée à l'UGA et psychologue clinicienne. Bonsoir Marie.
Bonsoir Jean-David.
Pour faire simple, vous êtes née en 57 à Québec, au Canada, et vous grandissez en France. Vous vous destinez à la recherche avec des études dans le domaine de la psychologie, puis vous poursuivez avec des études appliquées afin d'obtenir le titre de psychologue clinicienne. Enfin, vous préparez une thèse sur les interactions mère-enfant en situation de prématurité que vous obtenez à l'âge de 35 ans. Et pour finir, à 43 ans, vous soutenez votre habilitation à diriger des recherches. Vous avez donc exercé à la fois en tant que chercheur et en tant que psychologue en accompagnant les familles d'enfants prématurés et les femmes souffrant de cancer. Bref, vous étiez dans la pratique psychologique et dans la réflexion sur cette pratique. Mais avant de nous centrer sur vos activités professionnelles, revenons à vous, car nous ne venons jamais au corps par hasard. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes né au Canada et vous êtes arrivé en France à l'âge de 1 an. Donc, comment s'est passée votre arrivée en France ?
J'en ai aucun souvenir, mais j'ai l'expérience de mes parents qui se sont sentis complètement déracinés.
Ils étaient canadiens ?
Non. Ils sont partis au moment de se marier, ils y sont restés une dizaine d'années, et plus de 10 ans, et ils sont revenus avec 2 enfants. Mais c'était un périple, c'est une aventure qui ne se résumait pas au Canada. En fait, mon père voulait rejoindre son frère aîné qui en Indochine et qui est décédé avant qu'il ne puisse le rejoindre. Donc, comme mon père n'avait pas d'argent, ils avaient prévu d'abord d'aller au Canada, parce que c'était plus facile d'émigrer là-bas, ensuite de passer du Canada aux États-Unis, et ensuite de rejoindre l'Asie. Enfin bon, il avait prévu tout ça, sauf que ma mère a été enceinte, et l'entrée aux États-Unis a été impossible. À ce moment-là, donc, ils sont restés au Canada. Ils ont eu ensuite un 2e enfant. Et ils ont fini par revenir en France pour des raisons familiales, économiques.
Et donc, vous arrivez après en France avec votre famille. Et là, vous emménagez, déménagez, ou pas ?
Oui, enfin, on ne déménageait pas. On allait de ville en ville. On allait surtout de base aéronautique à base aéronautique, puisque mon père faisait des déplacements et avait décidé, sur le modèle américain, nord-américain, de vivre dans un mobilhome, une grande caravane. Et comme ça n'existait pas en France dans les années 50, il l'avait fabriqué lui-même en achetant un bus à l'armée. Et il travaillait dans les bases aéronautiques de l'armée. Il travaillait sur des avions de l'armée. Voilà. Il construisait des avions.
Vous étiez aussi à un moment donné peut-être à l'ouest de la France, du côté de Bordeaux, de Marignac.
Oui.
Et là, vous avez peut-être un souvenir.
C'est l'océan. Enfin, bon, c'est la rencontre avec l'océan que j'avais déjà traversé, mais j'en étais pas bien consciente. Et c'était très beau à l'époque, c'était le Cap Ferret, qui est devenu beaucoup moins sauvage aujourd'hui, qui est très peuplé. Mais à l'époque, c'était complètement sauvage. C'était des plages à perte de vue, et avec mon frère, on jouait dans les dunes. On y allait très souvent, puisqu'on habitait à côté. Et c'est un souvenir d'enfance plein de liberté, de vent, d'embrun. Je pense que j'en ai gardé toute ma vie, la nostalgie. Ouais. Je suis revenue plus tard.
Et l'amour de l'océan,
oui,
peut-être.
Oui.
Et alors, vous arrivez aussi à Marignac, où là, c'est une première rencontre, celle des maisons en carton.
Oui.
dans la pauvreté,
ouais,
de ces immigrés, puisqu'il y avait 500 000 réfugiés espagnols suite à la guerre civile et de l'expulsion, de la fuite de ces Espagnols républicains. Et donc, il y en avait aussi à Mérignac. Donc,
oui, oui, il y avait un camp de réfugiés. Et ma mère, en emportant sûrement des chaussures à réparer, avait fait la connaissance d'un cordonnier. Et moi, j'étais petite, hein, je devais avoir moins de 6 ans. Et j'étais fascinée par ses mains. Il était... C'était un homme très, très réservé, qui n'a jamais parlé de ce qu'il avait vécu en Espagne. Mais j'imagine aujourd'hui qu'il avait été torturé par les milices
De Franco.
De Franco, et qu'il avait émigré, il avait tout perdu, il était seul. Je me suis liée d'amitié avec cet homme qui était déjà âgé. Enfin, moi, je le trouvais âgé, alors il n'était peut-être pas aussi âgé que ça. Mais en tout cas, il avait entre 40 et 50 ans, je suppose. Et j'ai été frappée par sa pudeur.
C'est ça qui...
les enfants comprennent ça. D'abord son corps, le corps mutilé. C'était la première fois que j'étais en contact avec la souffrance. Et la souffrance non dite, qui ne se répandait pas, ça m'a beaucoup marqué, je pense.
Suite à ces différents déménagements avec le bus, vous arrivez aussi à Paris, à un moment donné. Et sur votre temps libre, là, vous découvrez autre chose. Découvrir les musées.
Alors, le Paris, ça a été le choc. Enfin, la région parisienne, ça a été un choc violent parce que je découvrais les immeubles. On s'était toujours arrangé pour vivre à la campagne, en fait, et dans notre bus. Et je n'avais jamais vu d'immeuble avec une centaine d'appartements. Voire 500 appartements, et je suis arrivée dans une barre d'immeubles de 500 appartements. Et c'est là que nous avons vécu dans la région parisienne, et ça a été un choc, je dirais même un traumatisme. Et donc, ce qui a fait le pendant à ça, c'est la découverte des musées à Paris. Musée qui, à l'époque, n'était pas du tout fréquenté, donc j'y allais toute seule, j'avais une dizaine d'années. Mes parents allaient travailler et moi, je me promenais dans Paris. Paris était grand, donc je me réfugiais plutôt au Louvre, où j'étais assez seule. J'étais seule. Je m'imprégnais de la beauté des œuvres.
Est-ce que certaines vous ont plus marqué que d'autres?
Je me rappelle de la Vénus de Milo et puis de la Victoire de Samothrace qui était en haut de l'escalier. Enfin, en haut d'un escalier qui continuait. Sinon, je me souviens... à l'époque, on avait moins facilement accès qu'aujourd'hui aux œuvres impressionnistes. Ou alors moi, j'y avais moins accès. Mais en tout cas, je me souviens des Gréco, tout un tas d'œuvres très impressionnantes. Bon, rien à voir avec le Louvre aujourd'hui. Rien à voir avec, surtout... le musée d'Orsay, qui est une splendeur aujourd'hui. Mais j'ai toujours couru les musées quand j'ai eu l'occasion de voyager, toujours.
Alors vous parliez de la Vénus de Milo, et alors c'est vrai qu'on voit ce corps marqué. Est-ce que c'était aussi quelque chose qui déjà, ce rapport au corps en tout cas, a déjà été une sorte d'indice?
Sûrement. Je faisais beaucoup de danse classique. Et
c'est amusant parce que vous parlez de danse classique et toute la contrainte que ça, que ça implique.
Oui.
Et alors qu'il y a encore quelques minutes, vous parliez de l'océan, de la liberté que cela pouvait être, de courir dans les dunes ou dans l'eau de l'océan. Alors, comment vous avez vécu, justement, ce passage de...
La danse, je pense, m'a beaucoup, beaucoup appris sur le plan de la rigueur, de la discipline et du travail, beaucoup. Et de la souffrance aussi, souffrance physique, qui fait partie de... Alors, on doit appeler ça un art, un sport.
Qui est partie intégrante, en tout cas, de la pratique.
Ouais. Et donc, comme j'en faisais à dose quand même assez importante, j'avais les pieds en sang. J'avais des pansements à tous les doigts de pied, enfin bon. Et on souffrait, et ça faisait partie de l'éducation, d'un apprentissage, de ce qu'il faut faire pour travailler.
Pour avancer.
Oui.
Donc on a vu, il y a la peinture, la danse, puis aussi la musique.
Oui. Ça, la musique, c'était plus difficile parce que, bah, à l'époque, on n'était pas équipé comme aujourd'hui. Et on a eu des disques à Paris. Mon père a acheté une chaîne. On a eu des disques. Et tout de suite, bon, moi, mon éducation musicale, c'était le classique. Je n'avais de goût que pour ça. J'aimais bien certains chanteurs, mais bon, j'étais moins intéressée. Mais en tant que danseuse, j'étais attirée par la musique classique. Et puis, je n'ai découvert le rock'n'roll qu'en terminale. J'ai honte de le dire, mais
il n'est parfait.
Mais oui, mes copines de classe se sont dit, elle est vraiment nulle, on va faire son éducation. Et donc, elle m'avait prêté des disques de rock. Voilà, après j'ai découvert, j'ai eu une grande connaissance du blues, du rock'n'roll, etc. Parce que mon premier petit ami était un rocker.
Mais alors, j'ai cru comprendre que Bach était quand même la référence. Oui, et oui. J'ai l'impression que tous les amateurs de Bach y reviennent.
Thank you.
Les mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Alors nous voilà de retour avec Marie Powels et il y a aussi un autre événement qui important, en tout cas, qui est celui du visionnage par votre père. Vous a montré Nuit et brouillard.
Ah oui.
À 7-8 ans, donc c'est déjà... C'est déjà quelque chose d'assez important et peut-être pour les auditeurs, on va écouter un extrait.
Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues, les blocs ne sont plus visités que par une caméra. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques, plus aucun pas que le nôtre. La machine se met en marche. Il faut une nation sans fausse note. Sans querelle, on se met au travail. Un camp de concentration se construit comme un stade ou un grand hôtel, avec des entrepreneurs, des devis, de la concurrence, sans doute des pots de vin. Pas de style imposé, c'est laissé à l'imagination. Style alpin, style garage, style japonais, sans style. Les architectes inventent calmement ces porches destinés à n'être franchis qu'une seule fois. Pendant ce temps, Bürger, ouvrier allemand, Stern, étudiant juif d'Amsterdam, Schmulski, marchand de Cracovie, Annette, lycéenne de Bordeaux, vivent leur vie de tous les jours sans savoir qu'ils ont déjà, à 1000 km de chez eux, une place assignée. Et le jour vient où leurs blocs sont terminés, où il ne manque plus qu'eux. Raflé de Varsovie, déporté de Lodz, de Prague, de Bruxelles, d'Athènes, de Zagreb, d'Odessa ou de Rome. Interné de Pithiviers. Raflé du Veldiv. Résistant parqués à Compiègne. La foule dépris sur le fait, dépris par erreur, dépris au hasard, se met en marche vers les camps.
Alors, Marie, ma première question sera pourquoi un père prend l'initiative de montrer un tel film à ses enfants qui ont 7-8 ans ?
Ah ! Déjà, l'histoire continue. J'ai dit que mon père voulait rejoindre en partant au Canada. Il n'avait qu'un seul but, c'était de rejoindre son frère en Indochine. Ce frère avait été déporté à Dachau. Pour des faits de résistance, il était dans le maquis. Et je pense que mon père a été extrêmement traumatisé par la guerre, comme ma mère. Ils étaient enfants pendant la guerre et adolescents. Et c'est vrai qu'en 1957, On était encore à 10 ans de la guerre, hein, seulement 10 ans de la guerre. Donc mes parents ont vécu à la fois la fin de la guerre, et ensuite ils ont émigré au Canada, et là c'était un pays qui était moderne, extrêmement riche, comparé à la France qui était détruite. Et quand ils sont revenus, 10 ans après, ils ont retrouvé un univers très différent de l'Amérique. Et donc, ils ont fait un retour en arrière qui, je pense, les a confrontés à nouveau aux conséquences de la guerre. La France était très en retard sur le plan technologique, sur le plan économique, par rapport à l'Amérique du Nord. Alors il y a cette raison, et puis les camps, la déportation, les camps, l'extermination, la Shoah, je pense que ça m'a profondément marqué, et c'est resté avec moi, oui, constamment.
Ce qui est assez étonnant, c'est que vous me disiez que vous n'aviez pas revu ce film depuis.
Non, je ne peux pas.
Alors que donc, ça fait quand même...
Enfin, l'extrait que vous avez passé...
Ce sont les premières minutes.
N'a rien à voir avec la représentation que j'ai de ce film. Les images sont terribles.
Oui, c'est ce qu'on voit dans le documentaire, c'est qu'il commence... c'est un film d'Alain René. Il commence par finalement montrer la banalité du mal, en fait. C'est-à-dire, comme dans l'extrait qu'on vient d'écouter, il dit en fait, on fait des appels d'offres pour construire. Et on voit ça, en fait. Le film commence par ça, par cette normalité de succession, d'une sorte d'enchaînement qui vont en fait amener à construire des baraquements. Puis à un moment donné, ces baraques, il faut bien les remplir. Alors on va déporter des gens pour voilà, et on voit aussi d'ailleurs le contraste qu'il y a entre ces des images d'archives de militaires et qui sont très propres sur eux, qui sortent des camps, des femmes qui devaient être torsionnaires mais qui étaient très propres sur elles, et puis ils enchaînent ça avec des images de corps complètement squelettiques. De fosses communes.
Moi, je me souviens d'un bulldozer qui charrie des masses de corps et qui les pour les jeter dans des fosses. C'est quelque chose qui, alors c'est entre la danse classique et puis ces représentations, dont la représentation des corps sublimés, maîtrisés de la danse, et puis cette déchéance, cette horreur. Cette horreur absolue des camps de concentration, avant même que je fasse de la danse, hein, puisque je l'ai vu. Non, je faisais de la danse à l'époque. Je suis restée très concernée.
Parce que vous me disiez que vous aviez tout lu.
Oui, et donc, j'ai une bibliothèque absolument. Et j'ai une amie qui est d'origine juive. Et qui elle-même est elle aussi très très concernée et obsédée. Et on riait l'autre jour parce qu'on se disait qu'à nous deux, on avait la bibliothèque mondiale sur concernant les livres sur cette période et sur cette expérience de la Shoah.
Et donc vous parliez de ces corps qui sont dans ce film-là, ces images qui vous sont restées. Est-ce que donc elles vous ont hanté, elles vous ont poursuivi peut-être, est-ce que c'est...
Oui, je pense que très très tôt, j'ai été sensibilisée et extrêmement sensible à la souffrance mais une souffrance indicible. C'est-à-dire, je me rappelle Pedro ne parlait pas. Mais on voyait, et dans le film d'Alain René, le commentaire, les images sont au-delà des commentaires. Enfin, on ne peut faire aucun commentaire sur des images pareilles. Dans mes expériences de clinicienne, j'ai eu souvent le retour d'images de ces expériences précoces, de ces images précoces qui m'ont imprégnée. J'ai souvent eu le retour de ces images dans les rencontres que j'ai faites avec des patients et leurs souffrances.
Est-ce que le travail du psychologue n'est pas justement de mettre des mots sur l'indicible ?
Mettre des mots sur l'indicible, enfin, je pense que on ne peut mettre les... Enfin, c'est le patient qui met les mots et nous l'aidons à trouver ces mots. En tout cas, c'est au psychologue à regarder la souffrance et à être témoin plutôt de la souffrance et à ne pas la fuir. À ne pas la fuir, mais mettre les mots à la place du patient, non, sûrement pas. Non, non. Non, parce que...
L'aider à accoucher, peut-être.
C'est violent. Oui, ou l'aider à survivre par rapport à ça. Parce que celui qui a besoin d'oublier, on doit le respecter. L'oubli, on a le droit. Le droit à l'oubli aussi. Et à l'évitement.
Et donc là, on était sur ce film-là qui a... J'allais dire presque clôturer votre enfance et vous arrivez après...
Ça a été une rupture. Ça a été une rupture, une intrusion extrêmement violente dont mes parents n'ont pas du tout eu conscience.
Peut-être même qu'ils croyaient bien faire.
Sûrement, sans doute. Mon père avait un mode d'éducation à la dure. à la dure, et donc il nous plaçait toujours dans des situations un peu extrêmes pour nous apprendre à surmonter. Alors c'est bien parce que, enfin, ça a un avantage, c'est pas bien, mais ça a un avantage, c'est que on n'avait pas le droit d'être surpris ou pris au dépourvu. Donc, on devait se contrôler, donc je pense que j'ai un bon self-control.
Alors, quoique... Alors en tout cas, le self-control, vous avez pu l'exercer dans votre école de la sixième à la première,
oui.
Qui est peut-être la première véritable maison.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle avait de spécial
Elle était... C'était le beau. Je pense que j'ai oscillé souvent... je suppose que c'est pour tout le monde un peu pareil, mais... Moi, c'était évident et c'était presque caricatural. C'est-à-dire que cette école, c'était un ancien château qui était devenu un couvent, un vrai couvent avec des novices qui évoluaient parmi les élèves. Et c'était un moment de paix, de liberté, paradoxalement. Il y avait un grand parc, il y avait des pianos partout. Ça courait dans les escaliers, il y avait d'immenses escaliers. Tout était en bois, alors ça faisait pas mal de bruit. Il y avait une chapelle, puis il y avait une chorale où j'ai appris à chanter faux.
Et donc là, vous vous rapprochez du savoir, j'ai envie de dire. Il y a le beau, mais il y a aussi le savoir.
Oui, mais le savoir a été appréhendé dans le beau. Dans le beau, dans le grandiose, et surtout dans la nature, dans la sérénité, dans le calme. Donc j'ai tout de suite associé les livres, la connaissance, avec le silence, la concentration, des moments privilégiés où j'étais à l'abri du monde.
Et c'est à ce moment-là que vous faites la rencontre avec Michel Foucault.
Michel Foucault, oui.
À partir de la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, la folie, qui était une expérience relativement peu importante tout au long de l'époque chrétienne, brusquement prend une importance tout à fait considérable et inattendue. Il m'a semblé en quelque sorte que l'expérience de la mort, qui, dans les dernières années du gothique, avait été si importante, disparaît pour être remplacée par une expérience de la folie du monde, de la déraison des hommes et des choses, et à la menace de la mort qui pèse sur les individus, se substitue la menace d'une sorte de grand délire qui risquerait de menacer le monde. Et il me semble que toute la Renaissance a été plus ou moins dominée, ou en tout cas comme menacée, par ce grand mythe, ce grand thème de la folie et de la déraison qui menace les hommes et les choses. De cette menace, on a évidemment toute une série de témoignages, soit des témoignages qui sont picturaux, c'est la nef des fous que l'on retrouve si souvent dans la peinture de la Renaissance. Ce sont des témoignages littéraires aussi. Il y a des poèmes, le poème de Brandt par exemple, qui a été consacré également à la nef des fous, à Stultifera Navis. Et puis il y a aussi des textes philosophiques qui représentent comme la défense contre cette peur de la folie. Le texte d'Érasme, l'éloge de la folie, n'est pas tellement un éloge véritablement de la folie. Il s'agit simplement, au fond, je crois, pour Érasme, de montrer que la folie, ce n'est pas quelque chose de si important et qui menace le monde jusque dans ses fondements. Il s'agit simplement pour lui de montrer que la folie, ce n'est pas autre chose que le cortège. Et comme la danse, un petit peu fantaisiste et pas tellement sérieuse, des défauts et des folies mineures des hommes. Au XVIe siècle, vous aviez, si vous voulez, des châtiments qui étaient spécifiés. Vous aviez des formes de châtiment pour des gens que l'on considérait comme hérétiques et que nous aurions peut-être considérés, que nous considérerions maintenant comme des malades mentaux. Enfin, peu importe, ils avaient une forme de châtiment pour eux. Il y avait les gens qui étaient atteints de maladies vénériennes et qui, au début, ont été soignés, puis, par une évolution en quelque sorte rétrograde, ont été châtiés à partir de 1550-1560. Les textes sont assez clairs. Et puis, il y a eu, eh bien, les fous. Les fous étaient, jusqu'à la fin du XVIe siècle, traités de deux façons. Ou bien, enfin disons de trois façons. Ou bien ils étaient traités dans les hôpitaux et soignés comme tels avec les médicaments et les thérapeutiques de l'époque, c'est-à-dire saignés, etc. Ou bien ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés en général dans des sortes de citadelles, dans des tours, les forteresses qui entouraient les villes. Et ils étaient là, on les montrait, c'était des sortes à la fois d'emblèmes de terreur et de répulsion. Et puis, troisième possibilité, bien sûr, ils circulaient à l'état libre. Et on trouve dans la littérature du XVIe siècle, et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle, beaucoup d'allusions à ces personnages de fous qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres. Au début du XVIIe siècle, quelqu'un qui signait le compte de permission et qui était un fou célèbre, protégé par les plus grandes familles françaises, vivant à leur crochet, a publié des œuvres.
Alors nous venons d'écouter Michel Foucault, qui parle de l'histoire de la folie, donc
son grand livre.
Son grand livre. Comment on arrive à Michel Foucault dans un...
Ben grâce à une prof de français, qui n'était même pas prof de philo, qui nous donnait des lectures pour les vacances. Quand elle nous quittait, elle nous disait « Tiens, vous devriez dire ça, 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 ça. » Et l'histoire de la folie, c'est un gros pavé, hein. Et donc, je l'ai lu, j'ai dû le lire entre la première et la terminale. Il faut dire qu'à l'époque, c'était quand même bien après 68, mais le climat était... Il y avait des philosophes,
Intellectuels.
Voilà, il y avait des intellectuels. Deleuze, Foucault, Lévi-Strauss, tout un tas de gens qui étaient extraordinaires et qui avaient une réflexion. Bon, il y avait encore Sartre, Simone de Beauvoir. Donc, il y avait une émulation intellectuelle qui faisait que ça donnait envie. Ça donnait envie. Quand on écoute Foucault, c'est une chose. Quand on le lit, c'en est une autre. Et son style, je pense que j'ai eu le coup de foudre pour Marguerite Yourcenar parce qu'elle m'a rappelé Foucault.
C'est une sorte de version romanesque.
Oui,
de Foucault.
Tout à fait. Des livres, une écriture très, très sophistiquée. Très documenté, très fouillé.
Mais il y avait beaucoup d'écrivains, de philosophes à cette époque-là. Et pourquoi Michel Foucault retient votre attention et pourquoi Histoire de la folie retient votre attention?
Ah.
Parce qu'on peut quand même faire un certain parallèle avec la psychologie.
Oui, oui, oui. Mais ça, on peut faire un parallèle avec la psychologie, avec la Shoah, avec le régime de Franco. Donc, la violence. On va dire que oui, il y a un fil conducteur et qui nous mène à l'œuvre noire. C'est la violence des hommes vis-à-vis des autres hommes. C'est un fil rouge qui a continuellement retenu mon intérêt.
Et c'est vrai, oui. c'est vrai que Foucault a la particularité d'être, il me semble, historien de base.
Et, historien, philosophe.
Et qu'il recontextualise, il réincorpore, j'allais dire, vraiment dans le vécu des personnes, bien plus que d'autres philosophes, on va dire, éthérés. Mais aussi l'une des choses belles, puisque vous parliez de connaissance et de beauté, c'est aussi celle de Satie que vous appréciez.
Oui.
Nous revenons aux mémoires dans la peau avec Marie Pauwels, psychologue clinicienne et maître de conférences à l'UGA. Et donc, nous pouvons entamer un autre volet de votre vie, de votre jeune vie d'adulte, où vous me confiez que en fait, vous n'avez même pas tenté médecine et que vous êtes allé directement vers les études de psychologie, alors que médecine semblait
Une vocation. C'était une vocation et je pense que j'aurais été un très très bon médecin. J'en suis convaincue. Mais j'ai pas essayé pour une simple et bonne raison. C'est que il n'était pas du tout question que mon père finance mes études. Non pas qu'il n'en avait pas les moyens, mais parce qu'il ne le voulait pas. Et donc, j'ai dû travailler. Et travailler en faisant des études de médecine, à moins de rentrer à l'armée, j'y ai pensé. Non, je pense que je n'aurais pas du tout pu m'adapter. Donc, j'ai fait psycho. J'ai fait psycho en dilettante, sans y croire, dans une université très orientée sur la psychanalyse. J'ai eu beaucoup de mal à m'identifier à l'enseignement, mais j'avais de grands professeurs, vraiment de très grands professeurs, René Caës, Jean Bergeret, Jacques Cosnier... et d'autres.
Et peut-être aussi Serge Lebovici.
Quand un bébé voit sa mère 3 semaines, il tend les bras. Or, tend les bras, la mère dit, il veut que je le prenne. C'est pas vrai. Bowlby a justement montré que c'est un reste phylogénétique du réflexe d'agrippement du jeune singe à sa mère, sur la poitrine et au poil de sa mère. Lui, il ne peut pas se bouger, donc il tend seulement les bras. La mère dit, il veut que je le prenne. Or, à 6 semaines, quand il entend la voix de sa mère, il tend les bras. C'est-à-dire qu'il a été capable de faire la relation entre les soins de vue et les soins de l'oreille, les soins donnés par l'oreille. Alors, vous voyez, c'est comme ça que se compose l'image peu à peu de la mère. Mais disons que vers 6-8 mois, la mère est un personnage de son autonomie aux yeux de l'enfant. Et quand elle disparaît pour aller ailleurs et qu'un étranger arrive, le père devient un étranger à ce moment-là. Et l'enfant traverse cette deuxième phase, qui est la phase de l'angoisse du 8e mois décrite par Spitz, qu'on appelle aussi en France la phobie du visage de l'étranger. C'est une vraie phobie. Il déplace l'angoisse de la disparition de la mère de la présence d'un objet nouveau, un objet pensant. Hein. Donc, si vous voulez, à cette relation intersubjective est fondamentale.
Donc, Serge Lebovici évoque la relation d'attachement. Il évoque la relation d'attachement, mais aussi des liens avec l'éthologie, c'est-à-dire, pour nos auditeurs, la science des comportements animaliers dans leur milieu. Et donc, il fait des parallèles avec ça. Il fait aussi des parallèles avec les interactions mère-enfant.
Oui. Alors là, on aborde vraiment un sujet qui m'intéresse et qui est beaucoup plus intéressant que tout ce que j'ai pu vous raconter jusqu'à présent.
Mais ce que vous nous avez raconté, avant, nous a permis de comprendre
ouais,
le cheminement.
Peut-être. Alors, Serge Lebovici, c'était un grand professeur, mais qui était à Paris. Je suis toujours étonnée d'entendre que les étudiants, m'apercevoir que les étudiants le connaissent très, très peu aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Il y a eu un tournant dans la psychologie du jeune enfant. J'ai plutôt tendance à utiliser le terme de pédopsychiatrie. Un grand tournant où certaines personnalités se sont intéressées à l'éthologie. En premier, René Spitz et John Bowlby. Et puis, on peut dire que Serge Lebovici a été a vraiment soutenu cet élan, ces travaux qui utilisaient la méthodologie éthologique, parce que l'éthologie n'est pas un champ théorique, mais plutôt un champ méthodologique, c'est-à-dire prendre le temps d'observer ce qui se passe entre la mère et l'enfant, ne plus uniquement et exclusivement, même si ça a une valeur très importante, ne plus exclusivement, pas seulement écouter le discours de la mère sur l'enfant, ou à propos d'elle, à propos de sa relation avec son enfant, mais observer ce qui se passe. c'est-à-dire comment elle le tient, comment elle lui parle, comment l'enfant réagit. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les interactions précoces, c'est-à-dire la verbalité, les comportements non-verbaux. Et ça, c'est devenu grâce à des gens comme Serge Lebovici, mais qui a été à la tête de ce mouvement, après Spitz et Bowlby. Il a permis que cette méthodologie, cette façon d'appréhender les relations mère-enfant, l'existence de l'enfant et son développement dans son ensemble, pas uniquement psychique, mais quand même, son développement psychique à travers les comportements qu'il échange avec la mère. C'est-à-dire que le sujet n'est plus pris dans son individualité, il est appréhendé dans l'interaction avec l'autre.
Un grand parti de l'attachement, c'est la capacité de s'éloigner de la mère physiquement et de revenir. Et c'est en grande partie pourquoi, à la fin de la première année avec la marche, que l'enfant mis en évidence si dramatiquement cet aspect de l'attachement. Parce que j'ai l'impression que l'enfant était, comme dit le Thierry en grande partie, que l'enfant était forcé par la curiosité, l'exploration, de partir de la mer, mais il ne réalise pas en fait qu'il a fait une grande distance. Et tout à coup, quand il réalise qu'elle, comme base de sécurité, était loin, il commence d'avoir une angoisse de séparation, il revient, et finalement, il trouve une distance où les deux forces sont un peu équilibrées, l'exploration et l'attachement, et il est à l'aise dans cette gamme de distance.
Nous venons d'entendre Daniel Stern à propos du monde intérieur, des mondes intérieurs de l'enfant, et il nous fait part en fait, de la relation des mécanismes d'attachement d'une certaine manière et des mécanismes d'exploration de l'enfant. Et c'est aussi quelqu'un que vous avez côtoyé. Mmh. Donc peut-être que...
dont j'ai profité de l'enseignement. c'était une époque extrêmement dynamique et novatrice dans le domaine du tout petit. Je préfère dire tout petit parce que les interactions précoces, tout le monde ne sait pas ce à quoi ça renvoie.
C'est juste quelques jours, quelques heures même jusqu'à quelques...
Ça a été révolutionnaire dans le sens où... la mère fait l'enfant, mais l'enfant fait la mère. Voilà. Et donc, je me souviens à l'époque, j'étais en plein travail de thèse et j'analysais des vidéos d'interaction mère-enfant. Et je m'étais aperçue, enfin, j'avais observé au même moment où Stern lui-même avait publié, venait de publier, ou était en train de publier un papier sur le fait que c'était le nourrisson qui initiait les interactions visuelles et qui les interrompait. Et donc, on découvrait un monde au microscope, c'est-à-dire on découvrait ce qui est miraculeux dans l'usage et l'utilisation de la méthode éthologique, c'est qu'on s'est mis à filmer des interactions, on s'est mis à faire de la macro-analyse, mais aussi de la micro-analyse, et donc on s'est mis à regarder...
Ce qui concrètement se passait,
mais aussi ce qui est invisible à vitesse normale. On s'est mis à mettre nos films, nos VHS sur des chaînes de montage. On s'est mis à passer nos films image par image. Et on s'est aperçu que l'enfant se mouvait en concordance avec la parole humaine, etc. Enfin, des choses tout à fait extraordinaires. On a découvert un monde des profondeurs de la relation mère-enfant. Un monde totalement inconnu et invisible qui représente les fondements de la relation et de la construction de l'identité de l'enfant.
C'est sur ces mots que je vous propose de terminer l'émission et de vous dire au mois prochain, où vous pourrez justement nous faire part de votre carrière universitaire dans différents domaines, dont la périnatalité, justement, dans ce rapport au nouveau-né, comment la mère devient une mère avec un nouveau-né, et aussi tout un pan très important de votre carrière universitaire qui est de l'ordre de l'oncologie, c'est-à-dire de la science du cancer et de l'accompagnement, surtout, que vous avez fait en tant que psychologue auprès des personnes diagnostiquées cancéreuses. Donc, je vous dis au mois prochain.
Merci de votre accueil.
À très bientôt.
Au revoir.